Des fontaines et des parcs pris d'assaut. De Berlin à Bilbao, les mêmes scènes se répètent. Une vague de chaleur qui fait les gros titres des JT, comme ici en Belgique.
Ce soir à minuit, la Belgique passe en avertissement chaleur rouge. C'est la première fois, c'est une première historique.
39 degrés relevés dans le royaume hier, du jamais vu. Aujourd'hui, c'est Paris qui a battu un nouveau record. Plus de 42 degrés dans la capitale. Et il va falloir s'y habituer. La fréquence des canicules devrait doubler d'ici 2050, avec des températures qui pourraient dépasser les 50 degrés. Face à cette situation, certains spécialistes appellent à repenser complètement l'organisation des villes, en les végétalisant par exemple.
Les arbres, ils ont une propriété qui est très intéressante, c'est que quand ils ont de l'eau présente dans leurs racines, de l'eau qu'ils sont capables d'aller chercher dans le sol, ils vont remonter cette eau par capillarité dans les branches, dans les feuilles. Cette eau, elle va s'évaporer, et en s'évaporant, elle va refroidir l'air ambiant. Ce qui fait qu'en plus de l'ombre, on a un pouvoir de climatiseur naturel par les arbres.
Aux États-Unis, la ville de Los Angeles a opté pour une autre initiative. Elle a repeint en blanc une partie de ses chaussées. À la manière des villages grecs, la lumière est réfléchie plutôt que d'être absorbée par l'asphalte.
Alors, la chaleur ici, sur la surface noire, c'est 42-43 degrés Celsius, en ce moment. Et sur la surface sèche, de l'autre côté, alors qu'on a mis une seule couche de blanc et qu'on doit encore mettre la deuxième couche, c'est 36 degrés Celsius. Donc on voit une différence de température de 6 à 7 degrés Celsius et il n'est que 10h30 du matin.
Des villes nouvelles, capables de s'adapter à des défis nouveaux. Le réchauffement climatique va-t-il créer un fossé entre les métropoles qui auront les moyens de s'adapter à la nouvelle donne et les plus pauvres qui continueront à étouffer ? Comment vivre avec ce phénomène caniculaire ? Faut-il s'y habituer ou revoir complètement nos modes de vie ?
De Jean-Charles Robillard. Il y a quelques années, Météo France nous annonçait des températures à 45 degrés en France vers 2050. Aujourd'hui, nous y sommes presque. A-t-on sous-estimé le réchauffement climatique ? Alors Françoise Vimeux, est-ce qu'on a été dans le déni toutes ces dernières années ?
Alors, les climatologues n'ont pas été dans le déni, hein, et puis les observations météorologiques montrent que depuis le milieu du XXe siècle, en ce qui concerne les vagues de chaleur, on en a de plus en plus. Si on comptabilise le nombre de vagues de chaleur qu'on a depuis 1947, c'est une petite quarantaine, et 22 vagues de chaleur sont apparues après les années 2000, 16 après les années 2010. Et depuis 2010, la seule année où on n'a pas identifié sur le territoire hexagonal des vagues de chaleur, c'est 2014. Et les prévisions, les projections climatiques annonçaient en fait cette augmentation et même cette accélération des vagues de chaleur.
Alors justement, cette accélération que vous évoquez montre aussi que le réchauffement climatique prend une ampleur en tout cas jamais vue depuis très très longtemps, Benjamin. Et cette durée, cette ancienneté, eh bien, s'incarne dans votre chiffre du jour qui est
2000, car la Terre vit sa période la plus chaude depuis 2000 ans, et ce d'après plusieurs centaines d'indicateurs climatiques étudiés par les scientifiques, des indicateurs climatiques appelés proxy. Ils ont réussi à reconstruire en fait les variations de température des siècles passés et donc sont arrivés à cette conclusion. Alors justement, Guillaume Saint-Denis, est-ce que c'est irréversible? Quand on entend, on voit ce chiffre-là, on se dit ben, c'est mal barré.
Irréversible, tout dépend de l'échelle de temps à laquelle on pense. En tout cas, il y en a pour longtemps, c'est sûr. Alors, est-ce qu'il y aura un jour soit un arrêt, soit une régression, peut-être, mais pas à court terme et peut-être pas à moyen terme, mais à long terme, peut-être, oui.
Avec elle, c'est un phénomène qui est réversible, même à long terme, ou est-ce que c'est inéluctable ?
Ce qui est irréversible, c'est le fait que la température moyenne de l'atmosphère a augmenté de 1 degré Celsius depuis l'époque pré-industrielle. Donc ça, c'est en quelque sorte acquis. Alors c'est pas une très bonne nouvelle en soi, mais ça, on peut pas revenir en arrière à une échelle humaine, d'histoire humaine, c'est-à-dire de quelques générations ou quelques dizaines de générations même. La question de l'irréversibilité, c'est puisque les émissions de gaz à effet de serre continuent à se produire à un rythme qui est extrêmement important, est-ce qu'on va pouvoir limiter cette augmentation moyenne de la température à 1,5 degré Celsius, ou est-ce qu'on va aller à 2 degrés, ou même pire, est-ce qu'on va aller au-delà? Et c'est là que la question de la réversibilité, ou plus exactement du freinage, du ralentissement, se pose. Et là, il y a pas mal d'indicateurs qui permettent de dire oui, on peut empêcher un réchauffement catastrophique.
Avec des objectifs fixés au moment de la COP21, Françoise Vimeux, mais on se dit, voilà, est-ce que cet accord peut vraiment servir à quelque chose? On pensait que c'était une prise de conscience. l'accord de Paris.
Ce qui est sûr, c'est que ce qui va se passer dans les années, les décennies à venir, c'est déterminé par ce qu'on a déjà mis dans l'atmosphère comme gaz à effet de serre. Ce que montre le rapport du GIEC qui est sorti l'an passé, c'est que on peut encore choisir de limiter le réchauffement à 1,5 degré pour la fin du siècle, pourvu qu'en fait on réduise d'ici 2030 nos émissions de gaz à effet de serre d'environ 45%, donc de manière drastique.
Un degré et demi, c'est l'objectif fixé par la COP21.
Voilà, c'est l'objectif fixé par la COP21. Alors c'est une prise de conscience et c'est comme, enfin, je trouve que la plupart des États s'en emparent et c'est la réponse après qui arrive peut-être doucement. Mais ce qui est intéressant, c'est que le dernier rapport du GIEC montre que c'est encore possible pour la fin du siècle de moduler l'amplitude du changement climatique. Par contre, effectivement, pour les années qui viennent, c'est déterminé par ce qui a déjà été réalisé.
Guillaume Saint-Denis, les États s'en emparent. Vous avez aussi cette sensation-là, cette impression-là?
Très variablement. Si vous voulez, on a beaucoup parlé de l'accord de Paris, qui est incontestablement un succès diplomatique, puisque les États membres ont signé, et politiques pour la France qui l'organise.
On a vu les États-Unis s'en retirer, et là, tout le monde s'est alarmé.
Oui, mais en dehors de ça, dès la signature de l'accord, dès la conclusion de l'accord, ça n'était pas un accord environnemental. Puisque c'est un succès environnemental, pardon, puisque c'est un accord qui est moins bon que ne l'était le protocole de Kyoto.
Qui remonte le protocole de Kyoto
à 97. Il s'agissait de trouver la succession du protocole de Kyoto. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de mesures contraignantes dans l'accord de Paris et que, par exemple,
aujourd'hui, les objectifs ne sont pas atteints, enfin ne sont pas remplis.
Non seulement ils ne sont pas atteints, mais
y compris par la France.
Il y a même un certain nombre de mesures qui étaient prévues dans le protocole de Kyoto qui ne sont pas dans l'accord de Paris. Par exemple, le fait de lutter contre les subventions aux énergies fossiles ne figure pas dans l'accord de Paris, alors que c'était dans le protocole de Kyoto. Donc, on s'est beaucoup félicité de cet accord qui, dans les faits, n'est pas optimal du point de vue de l'environnement. Moi, je considère personnellement que ça n'est pas un succès environnemental.
Alors, c'est pas un succès, vous le disiez à l'instant, cet accord de Paris issu de la COP21. Pour autant, il y a quand même eu relativement une prise de conscience, on va dire, ces dernières années. Et on va surtout s'en rendre compte, si on remonte un peu plus le temps, on va remonter carrément plus d'un demi-siècle en arrière. En 1968, nous sommes à Paris, dans le sud de Paris, à Montparnasse. Et cette année-là, un quartier bétonné, surplombé d'une gigantesque tour, sort de terre.
Dans le panorama de Paris, quelque chose a changé. Ses formes insolites, ses immenses bâtiments d'acier, de verre, c'est le nouveau Montparnasse. Ici, un nouveau quartier ultramoderne est en train de naître, dans une ville en voie d'évolution. C'est la plus vaste opération de rénovation jamais entreprise dans Paris. Il s'agit d'une expérience unique en pleine capitale. Un vaste ensemble, commercial, résidentiel, avec des services publics. Dans ce nouveau quartier d'affaires, Montparnasse d'aujourd'hui préfigure demain et l'an 2000. Depuis près de 3 ans, des milliers de Parisiens apprennent à vivre dans ce Paris des temps modernes.
Alors Hervé Kempf, on le voit à l'époque, la ville, elle est pensée sans la nature et même contre la nature. Est-ce qu'il peut y avoir un changement aujourd'hui, puisqu'on le voit dans les grandes villes comme Paris et pas seulement, dans les grandes métropoles, nous sommes écrasés aujourd'hui dans des univers de béton surchauffé.
Oui, là, c'est la grande époque des années 70, de Georges Pompidou, des Trente Glorieuses, de la voiture. Il fallait adapter Paris à l'automobile. Maintenant, on est dans l'inverse. On a totalement changé. On est en train d'inverser. Ça n'est pas facile, mais le logiciel est de dire qu'il faut chasser la voiture des villes. Donc, on est vraiment dans ce renversement. Et effectivement, ce qui apparaît de plus en plus, c'est aussi l'idée de végétalisation, c'est-à-dire par rapport à la canicule, au réchauffement.
Forêts urbaines, c'est ça ?
Pardon ?
L'idée d'implanter des forêts urbaines ?
Des forêts urbaines, d'avoir plus de parcs, d'avoir plus de jardins, d'avoir moins de voitures, parce qu'il faut jamais oublier en plus que les voitures prennent énormément d'espace dans les villes, avoir aussi de l'agriculture urbaine, occuper des toits quand c'est plat par des cultures. Donc on est dans cette idée-là, des jardins partagés, et donc petit à petit ça se met en place.
C'est quand même un chemin parcouru incroyable. Depuis pendant 150 ans, on prend quand même conscience des erreurs qu'on a pu commettre. Et quand Anne Hidalgo, la maire de Paris, propose ces forêts urbaines, on sourit, c'est vrai qu'elle a été moquée, Françoise Immeux. Est-ce que, en effet, ça peut être une des solutions envisageables pour réparer les dégâts ?
Alors, la végétation, de manière générale, c'est une solution pour deux raisons. D'abord, c'est remplacer du sol bétonné par un sol terreux qui va absorber beaucoup plus la pluie, par exemple. Et ça, c'est un aspect vraiment important lorsqu'il y a des pluies extrêmes et qu'on parle d'inondations. Et puis, le second aspect, c'est que la végétation, elle transpire de l'eau. Et donc, cette transpiration, cette évaporation, elle rafraîchit, en fait, autour. Parce que évaporer de l'eau, ça demande de l'énergie. Et donc cet effet rafraîchissant est un vrai effet. Donc il n'y a pas à sourire de ce genre de proposition.
Mais vous, Guillaume Saint-Denis, vous dites qu'aujourd'hui, les politiques d'urbanisme, en général, elles manquent d'ambition, justement, sur ce terrain-là.
Oui, parce que, en gros, depuis les années 70, nous avons eu des politiques qui ont surtout favorisé ce qu'on appelle l'étalement urbain, et donc l'artificialisation des sols, qui aggrave en fait les problèmes de changement climatique, puisqu'on a la réverbération de la chaleur sur les sols artificialisés, la nécessité de prendre davantage la voiture pour combler l'augmentation des distances entre le lieu de travail et le lieu de domicile, etc. etc.
C'est-à-dire que vous dites que, par exemple, dans les villages du sud de la France, qui sont construits de manière très rapprochée, qu'on peut conserver l'ombre et une certaine humidité.
Absolument, c'est un très bon exemple. Toutes les villes provençales, le modèle de la ville provençale, c'est le modèle de la ville dense, rassemblée soit autour du château fort, soit de la place centrale du village, à la fois pour des raisons de sécurité, se protéger contre les envahisseurs, etc., et aussi pour garder l'ombre. C'est une sorte d'architecture, d'urbanisme bioclimatique.
Si Donc c'est vers ça qu'on devrait peut-être tendre. Alors qu'on avait tendance à penser qu'il fallait étaler la ville pour pouvoir respirer. Vous dites que c'est tout l'inverse, si je comprends bien.
Oui, alors c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'on peut avoir une ville dense non végétalisée ou une ville dense végétalisée. Et la ville dense, ça n'est pas, contrairement à ce que croient beaucoup d'élus, un urbanisme vertical. Le petit collectif ou l'individuel groupé économise déjà pas mal de place par rapport à l'individuel atomisé et permet une végétalisation.
Vous êtes inquiet du Grand Paris, par exemple?
Le Grand Paris, je ne sais pas que je suis inquiet du Grand Paris, c'est que je ne vois pas bien la contrepartie du Grand Paris en termes de verdissement, c'est-à-dire qu'on va avoir un certain nombre de lignes de transport qui vont couper quelques-unes des forêts qui restent et on va avoir une urbanisation accélérée, tout ça étant par ailleurs financé en partie par des green bonds, les green bonds, des obligations vertes qui servent en théorie à financer des choses environnementales puisqu'on finance des transports collectifs, donc on estime qu'ils émettent peu de CO2 et donc voilà, alors que ça n'est pas la seule chose qui permet de justifier une obligation verte et un financement écologique. Donc c'est vrai que ce Grand Paris, il manque à mon avis d'un volet atténuation et adaptation au changement climatique.
Alors parmi les moyens, les outils pour lutter contre la canicule, les outils auxquels nous recourons, il y a la climatisation qui a des effets pervers, on va le voir dans un instant, mais heureusement, il n'y a pas que la climatisation, il y a d'autres solutions.
Heureusement, c'est vrai, mais plus il fait chaud, plus on utilise la clim, mais plus paradoxalement, on accentue le réchauffement climatique. Parce qu'on le sait, la clim émet de grandes quantités de CO2 et donc contribue à ce réchauffement. Et ça ne va pas s'améliorer car le nombre de climatiseurs devrait être multiplié par 5 dans le monde d'ici 2050, en passant de 1,6 milliard à 5,6 milliards dans le monde entier. C'est considérable, donc c'est urgent de trouver autre chose. Et parmi les pistes étudiées, il y a le refroidissement urbain. Alors c'est très peu connu. Cela consiste à irriguer en fait des bâtiments avec de l'eau froide et ça existe en fait dans la ville de Paris depuis les années 70. 600 bâtiments en bénéficient, ce sont des administrations, des hôtels, également le musée du Louvre par exemple, et la capitale comporte le plus gros réseau européen, 70 km de réseau souterrain. L'eau qui s'écoule en fait est refroidie par l'eau de la Seine et l'eau est ensuite rejetée dans le fleuve. Et cette technique émet deux fois moins de gaz à effet de serre que les climatiseurs. Alors Guillaume Saint-Denis, est-ce que les villes pourront s'adapter en fait à ce défi du réchauffement climatique ?
Ce que vous venez d'exposer là, c'est un remake de ce que faisaient les Arabes. Les villes arabes ont toujours été construites avec de l'eau et c'est ce qu'ils ont fait en Espagne, en Andalousie notamment. On retrouvait l'eau comme élément rafraîchissant, donc on réinvente ça. Pour répondre à votre question... c'est évidemment plus difficile dans les villes qu'en milieu rural, puisque, comme ça a été expliqué, en milieu rural, on a quelquefois 7 à 8 degrés de moins du fait de la végétation et notamment des arbres. Mais c'est pas qu'elles le peuvent, c'est qu'elles sont obligées de le faire, puisqu'il y a une proportion de plus en plus importante des gens qui vivent en ville, donc on ne pourra pas faire autrement. Il n'y a pas que la végétalisation, il y a l'architecture bioclimatique, il y a les couleurs, comme on l'a vu tout à l'heure dans le reportage, il y a la circulation du vent, favoriser la circulation du vent, etc. Enfin, il y a énormément de choses qu'on sait faire, mais qui ne sont pas dupliquées à grande échelle aujourd'hui.
Hervé Kem, ça signifie qu'il faut aujourd'hui, pour lutter contre le réchauffement, il faut un changement comme ça de nos habitudes de consommation, de nos méthodes, etc., un changement par petites touches, ou est-ce qu'il faut un changement de système, un vrai changement global, systémique ?
Je me demande si, de toute façon, la question, c'est pas s'il ne va pas arriver quand... tout seul, puisque manifestement, on n'est pas du tout en situation de changer le système dans un sens réellement écologique. Et on parlait des États tout à l'heure, on peut encore avoir des questions en Europe, mais ce qui se